Chapitre 20. Gelsomine. Il s'ignore Mercurio était né au village de Carigny, et il espérait bien qu'en commémoration de l'honneur qui revenait à ce village d'avoir donné naissance à un homme tel que lui, il lui serait, érigé après sa mort, sur la montagne qui domine Carigny, une statue de la taille de celle de Saint-Charles Borromée à Arona. C'était un homme de 35 à 40 ans. Quoique ses cheveux grisonnants et sa barbe parsemée de poils argentés ont pu lui en donner hardiment 45 à 50. Mais, comme il disait lui-même, ses marques de vieillesse prématurée tenaient beaucoup moins à l'âge qu'à la fatigue de l'esprit et au travail de l'imagination. C'était en effet un rude métier, et demandant une éternelle tension de la pensée que celui qu'il faisait depuis sa jeunesse. Nous disons depuis sa jeunesse, car l'état qu'il avait embrassé était le résultat non pas d'une suggestion étrangère, mais d'une vocation personnelle. À 25 ans, il s'ignore Mercurio est un beau garçon, jouissait déjà d'une réputation méritée par toute la Sicile, quoiqu'il se nommât encore tout simplement Gabriello, du nom de l'ange Gabriel, auquel sa mère avait eu une dévotion toute particulière pendant sa grossesse. Aussi prétendait-il que plus d'une grande dame avait regretté parfois qu'il ne lui présentât point pour son compte les déclarations qu'il faisait pour le compte d'autrui. Un jour, c'était le lendemain des fêtes de Sainte-Rosalie, le prince de G le fit demander. Comme le prince de G était une des meilleures pratiques de Gabriello, celui-ci se hâta de se rendre au palais. À peine arrivé, il fut introduit. « Gabriello, dit le prince, mettant de côté toute circonlocution inutile et entrant de plein saut en matière. Il y avait hier, sur le char de Sainte-Rosalie, une jeune fille de 16 ans à peu près, belle comme un ange, avec des yeux superbes et des cheveux magnifiques. Ne pourrais-tu pas lui dire deux mots de ma part ?»« Quatre, Excellence, répondit Gabriel, mais dépeignez-moi un peu la personne à laquelle il faut que je m'adresse. Où était-elle placée ? Était-ce parmi les anges qui portent des guirlandes au premier étage, ou parmi ceux qui jouent de la trompette au second ? Mon cher, il n'y a pas à s'y tromper. C'était celle qui représentait la sagesse, qui tenait une lance à la main droite, un bouclier à la main gauche, et qui était debout derrière le cardinal. Bien mine, Excellence, vous n'avez pas mauvais goût. Tu la connais ? Est-ce que je ne connais pas toutes les femmes de Palerme ? Qui est-elle ? C'est la fille unique du vieux Mario Capelli. Et comment l'appelle-t-on ? On l'appelle Gelsomine. Eh bien, Gabriello, je veux Gelsomine. Ce sera long, Excellence. Ce sera cher. Combien de jours ? 8 jours. Combien d'onces ? 50 onces. Va pour 8 jours et pour 50 onces. Nous sommes aujourd'hui le 19 juillet, je t'attends le 27. Et le prince, qui savait qu'on pouvait se reposer sur l'exactitude de Gabriello, attendit tranquillement le moment fixé. Le même jour, Gabriello se mit à l'œuvre. Sa première visite fut pour le capucin qui confessait Gelsomine et qui se nommait Fra Leonardo. C'était un vieillard de 75 ans, à la barbe blanche et au visage sévère. Aussi Gabriello vit-il, avant d'ouvrir la bouche, que la négociation entreprise serait plus difficile à mener à fin qu'il n'avait cru. Il lui dit qu'il venait au nom d'un oncle de la jeune fille, qui, ayant du bien, voulait l'avantager, si ce que l'on disait de sa sagesse était la vérité. Le résultat des renseignements donnés par le capucin fut que Gelsomine était un ange. Au reste, comme c'est toujours par là que débutent les confesseurs, Gabriello ne s'inquiéta pas trop des mauvais renseignements que celui de Gelsomine venait de lui donner. Il se déguisa en juif, prit les plus beaux bijoux qu'il put se procurer, s'en forma une espèce d'écrin, et au moment où le vieux Mario était dehors, il entra chez la jeune fille pour lui offrir sa marchandise. Quand Gelsomine sut que c'était des pierreries qu'on allait lui montrer, elle refusa même de les voir, en disant qu'elle n'était pas assez riche pour désirer de pareilles choses. Gabriello lui dit alors que, quand on avait 16 ans et qu'on était belle comme elle l'était, on pouvait tout désirer et tout avoir. À ces mots, il ouvrit l'écrin et lui mit sous les yeux assez de diamants pour tourner la tête à une sainte. Mais Gelsomine jeta à peine un coup d'œil sur l'écrin et, comme Gabriello insista, elle entra dans la chambre voisine, en sortit un instant après avec une couronne de jasmin et de daphné, et se mirant avec coquetterie dans une glace. « Tenez, lui dit-elle, voilà mes diamants, à moi. Gaëtan nous dit que je suis belle comme cela, et tant qu'il me trouvera belle ainsi, je ne désirerai pas autre chose. Maintenant, mon père va rentrer, il trouvera peut-être mauvais que je vous eusse reçu en son absence. Ainsi, croyez-moi, retirez-vous. Gabriello n'insista pas. Pour la première visite, il ne voulait pas l'effaroucher. D'ailleurs, il savait ce qu'il voulait savoir. Gelsomina n'était pas coquette, et elle aimait un jeune homme nommé Gaëtan. Il retourna chez le prince de G. « Excellence, lui dit-il, je viens de voir Gelsomina. C'est plus difficile et plus cher que je ne croyais. Il me faut 15 jours et 100 onces. Prends le temps et l'argent que tu voudras, mais réussis. Voilà tout ce que je te demande. » « Je réussirai, Excellence. Je puis donc y compter. C'est comme si vous railliez, Monseigneur. » Gabriel connaissait assez son monde pour comprendre qu'il n'y avait rien à faire du côté de la jeune fille. Il se retourna donc de l'autre côté. Il s'agissait de découvrir M. Gaëtan. La chose n'était pas difficile. Gabriel loua une petite chambre au premier, dans la maison située en face de celle qu'habitait Gelsomina. Et le soir même, il se mit en sentinelle derrière la jalousie. À mesure que l'heure s'avançait, la rue devint de plus en plus déserte. À minuit, elle était complètement solitaire. À minuit et demi, un grand garçon passa et repassa plusieurs fois. Enfin, voyant que tout était tranquille, il s'arrêta, tira une petite mandoline de dessous son manteau et se mit à chanter la chanson de Melli, « O Cusineri ». À la fin du couplet, la jalousie du premier se souleva doucement et Gabriello en vit sortir la jolie tête de Gelsomina avec sa couronne de jasmin et de daphné. Le jeune homme monta aussitôt sur une borne et lui prit la main qu'il baisa. Mais tout se borna là. Après 2 heures de protestation de l'amour le plus chaste et le plus pur, la jalousie retomba. Le jeune homme resta encore un instant à prier, mais la petite main repassa seule à travers les planchettes. Puis, après avoir été baisée et rebaisée 20 fois, elle se retira à son tour. Ce fut vainement alors que Gaetano pria et implora. Gabriello entendit le bruit de la fenêtre qui se refermait. Le jeune homme, au lieu d'être reconnaissant de ce qu'on avait fait pour lui, sauta à terre avec un mouvement de dépit. Gabriello pensa qu'il allait se retirer. Il descendit vivement. En effet, au moment où il ouvrait la porte, le jeune homme tournait le coin de la rue. Gabriello marcha derrière lui. Il prit la rue de Tolède, qu'il suivit jusqu'à la place de la Marine. Puis il longea le quai et entra dans une petite maison située au bord de la mer. Gabriello fit, pour la reconnaître, une croix sur la maison avec de la craie rouge et il rentra tranquillement chez lui. Le lendemain, il connaissait Gaëtan comme il connaissait Gelsomina. C'était un beau garçon de 24 à 25 ans, pêcheur de son état, d'un caractère froid, et retiré en lui-même, et si préoccupé d'assortir sa toilette à sa figure, que ses camarades ne l'appelaient que le glorieux. De ce moment, le plan de Gabriello fut arrêté. Il alla trouver la plus adroite et la plus jolie fille qu'il put rencontrer à Palerme, c'était une catanaise qu'un marquis syracusain avait séduite, puis abandonnée après avoir vécu près d'un an avec elle. Pendant cette année, elle avait pris certaines façons de grande dame. C'était tout ce qu'il fallait à Gabriello. Il prit un appartement petit mais élégant dans un des plus beaux quartiers de la ville. Il loua pour un mois les plus jolis meubles qu'il put trouver. Il alla chercher sa catanaise, la conduisit dans l'appartement, lui donna pour femme de chambre une fille qui était sa maîtresse. Puis, une fois installé, il lui fit sa leçon. Tout cela lui prit 8 jours. Le 9e était un dimanche. Ce dimanche amenait la fête d'un village voisin de Palerme, nommé Belmonte. Gelsomina vint à cette fête avec 3 ou 4 de ses jeunes amis. Gaëtan n'était point encore arrivé. Mais en cherchant de tous côtés, celui pour qui elle était venue, les yeux de Gelsomina s'arrêtèrent sur une petite barque, toute enrubannée, à la poupe de laquelle flottait un pavillon de soie. C'était la barque de Gaëtan, qui traversait le golfe et qui venait de Castelmar à la Baguerrière. Arrivé à la côte, Gaetano amarra sa barque et sauta sur le rivage. Il avait un simple habit de pêcheur, mais son bonnet phrygien était du pourpre le plus vif. Sa tête de velours était brodée comme un caftan arabe. Sa ceinture aux 1000 couleurs était de la plus belle soie de Tunis. Enfin, Son pantalon plissé était de la plus fine toile de katane. Toutes les jeunes filles, en apercevant le beau pêcheur, poussèrent un cri d'admiration. Gelsomina seule resta muette, mais elle rougit d'orgueil et de plaisir. Gaétane fut tout à Gelsomina, et cependant, quoiqu'il parût fier d'elle, comme elle était fière de lui, les regards du beau jeune homme ne laissaient pas de s'égarer de la modeste jeune fille aux nobles dames qui étaient venues des villas voisines, voir cette fête populaire à laquelle elle dédaignait de prendre part. Plusieurs d'entre elles remarquèrent même Gaétane, et se le montrèrent du doigt avec cette naïveté des femmes italiennes qui s'arrêtent devant un beau garçon et qu'elles regardent comme elles regarderaient un beau chien ou un beau cheval. Gaétane répondit à leur regard par un regard de dédain. Mais dans ce regard de Gaétane, il y avait pour le moins autant d'envie que d'orgueil. Et l'on comprenait facilement qu'il donnerait bien des choses pour être l'amant d'une de ces fières beautés qu'en apparence il semblait haïr. Gelsomina ne voyait qu'une chose, c'est que son Gaétane était le roi de la fête. C'est qu'on l'enviait d'être aimée par le beau pêcheur. Et jugeant le cœur de son amant par le sien, elle était heureuse. Gaétane proposa à Gelsomina et à ses amis de les amener dans sa barque. Les jeunes filles acceptèrent, et tandis qu'un jeune frère de Gaétane, enfant de 12 ans, tenait le gouvernail, le beau pêcheur s'assit à la proue, prit sa mandoline, et au milieu de cette belle nuit, sous ce ciel magnifique, sur cette mer d'azur, il se mit à chanter les plus douces chansons de Melli, l'Anacréon sicilien. On aborda ainsi près de la cabane de Gaétane, puis il amarra sa barque. Les jeunes filles descendirent, le beau pêcheur conduisit Gelsomina et deux de ses compagnes qui demeuraient dans le même quartier qu'elle jusqu'au coin de la rue qu'elle habitait. Puis, arrivé là, il les quitta, et Gelsomina rentra avec une de ses amies qui, un instant après, sortit, accompagnée à son tour, de la vieille Assunta, la nourrice de Gelsomina. Gabriel s'était remis à son poste à la même heure que la veille. Il vit Gaétane passer, repasser, s'arrêter et faire le signal. Comme la veille, les deux amants causèrent jusqu'à 2 heures du matin. Mais, comme la veille encore, leur entretien demeura chaste et pur, et leurs caresses se bornèrent à quelques baisers déposés sur la main de Gelsomina. Gaétane ne douta plus qu'ils ne se vissent ainsi chaque nuit. Mais il ne douta pas non plus que, malgré ses entretiens, Gelsomina ne fût digne en tout point de représenter la déesse de la sagesse sur le char de Sainte Rosalie. Le lendemain, comme Gaétane venait à son rendez-vous habituel, une femme, couverte d'un long voile noir, l'accosta et lui glissa un petit billet dans la main. Gaétane voulut l'interroger, mais la femme voilée appuya par-dessus son voile son doigt sur sa bouche en signe de silence. Et Gaétane, étonné, la laissa se retirer sans faire un seul mouvement pour la retenir. Gaétane resta un instant immobile à la place où il était, reportant ses yeux du billet à la femme voilée et de la femme voilée au billet. Puis, s'approchant vivement d'une madone devant laquelle brûlait une lampe, il lut, ou plutôt il dévora, les quelques lignes que le papier contenait. C'était une déclaration d'amour, qui n'avait pour signature que ces mots, dont l'effet au reste fut magique sur Gaétane. Une des plus grandes dames de la Sicile. On lui disait en outre que s'il était disposé à répondre à cet amour, il retrouverait le lendemain, à la même heure et à la même place, la même femme voilée, qui le conduirait près de l'inconnu que la violence de sa passion forçait à faire près de lui cette étrange démarche. À cette lecture, le visage de Gaétane s'éclaira d'une orgueilleuse joie. Il releva le front, secoua la tête et respira comme un homme qui arrive tout à coup, et au moment où il s'en doutait le moins, à un but longtemps poursuivi. Puis, quoiqu'il fût minuit passé, il resta encore un instant pensif, debout et les bras croisés, devant la Madone. Relut une seconde fois le billet, le glissa dans la poche de côté de sa veste et prit la rue qui conduisait à la maison de Gelsomina. Quoique aucun signal n'eût été fait, la pauvre enfant était à sa fenêtre. C'était la première fois, depuis que Gaétane lui avait dit qu'il l'aimait, que Gaétane se faisait attendre. Enfin il parut, non point tendre et empressé comme d'habitude, mais contraint, gêné, inquiet. 10 fois Gelsomina, s'apercevant de sa préoccupation, lui demanda quelle pensée le tourmentait. Gaétane dit qu'il était indisposé, souffrant, et que si le lendemain il ne se sentait pas mieux, il était possible qu'il ne vînt même pas. En face de cette crainte, Gelsomina oublia toute autre chose. Il fallait en effet que Gaétan fût bien malade pour n'avoir point la force de venir voir sa Gelsomina, que depuis un an il venait voir en lui disant lui-même que peut-être l'habitude qu'il avait d'une inaltérable santé faisait qu'il exagérait les douleurs qu'il éprouvait, et qu'en tout cas il ferait tout au monde pour venir à l'heure ordinaire. Les jeunes gens se séparèrent. Pour la première fois, Gelsomina referma sa fenêtre avec un serrement de cœur inconnu pour elle jusque-là. Gaétan, au contraire, à mesure qu'il s'éloignait de Gelsomina, se sentait soulagé et respirait plus librement. Mal accoutumé encore à feindre, sa dissimulation l'étouffait. Le lendemain, à la même heure et à la même place, Gaétan rencontra la jeune femme. En l'apercevant, tout son sang reflua vers son cœur, et il crut qu'il allait étouffer. La femme s'approcha de lui. « Eh bien, lui dit-elle, es-tu décidé ?»« Ta maîtresse est-elle jeune ?» demanda Gaétan. « 22 ans. Ta maîtresse est-elle belle ?»« Comme un ange. » Il y eut un moment de silence pendant lequel le bon et le mauvais génie de Gaétan se livrèrent en lui un combat terrible. Enfin, le mauvais génie remporta. « Je te suis, » dit Gaétan. Aussitôt, la femme voilée marcha la première, et Gaétan la suivit. Le guide de Gaétan prit la rue Magda, qu'il parcourut aux trois quarts de sa longueur. Puis il s'arrêta devant un délicieux palazzino, tira une clé de sa poche, ouvrit une porte donnant sur un escalier, dont on avait éteint avec soin toutes les lumières, dit à Gaétan de le suivre en tenant le bout de son voile, monta avec lui une vingtaine de marches, l'introduisit dans une antichambre. Faiblement éclairé, traversa un riche salon. Puis, ouvrant la porte qui laissa arriver jusqu'au beau pêcheur cet air tiède et parfumé qui s'échappe du boudoir d'une jolie femme, « Madame, dit-elle, c'est lui. »« Oh mon Dieu, Thérésita, répondit une douce voix avec un accent plein de crainte. « Je n'oserais jamais le voir. »« Et pourquoi cela, madame ?» dit Thérésita en entrant et laissant la porte ouverte pour que Gaétan pût voir sa maîtresse à demi couchée sur une chaise longue et dans le plus délicieux des habillés qui se pût voir. « Pourquoi cela ? Il n'aurait qu'à ne pas m'aimer. »« Ne pas vous aimer, madame ! » s'écria Gaétan en se précipitant dans la chambre. « Ne pas vous aimer, le croyez-vous vous-même ? Et n'est-ce pas impossible quand on vous a vu ? Oh, ne craignez rien, ne craignez rien, madame, je suis tout à vous. » Et Gaétan tomba aux pieds de la jeune femme, qui cacha sa tête dans ses mains comme par un dernier mouvement de pudeur. Thérésita sortit et les laissa ensemble. Gelsomina attendit jusqu'à 4 heures du matin, mais inutilement, Gaétan ne vint pas. La journée du lendemain fut une triste journée pour la pauvre enfant. C'était sa première douleur d'amour. Il lui sembla que le soleil ne se coucherait jamais. Enfin, le soir arriva. La nuit vint. Les heures passèrent, lourdes et éternelles, mais elles passèrent. Minuit sonna. La pauvre enfant n'osait ouvrir sa fenêtre. Enfin, le signal se fit entendre, elle s'élança contre sa jalousie et y passa à la fois les deux mains pour chercher celle de Gaétan. Gaétan était à son poste, mais froid et contraint. Il sentit lui-même qu'il se trahissait. Il voulut lui reparler ce même langage d'amour auquel il l'avait habitué, mais il manquait à sa voix cet accent de conviction qui subjugue. Il manquait à ses paroles cette chaleur de l'âme qui entraîne. Gelsomina sentit instinctivement que quelque grand malheur la menaçait et ne répondit qu'en pleurant. À la vue de ses larmes qui roulaient du visage de Gelsomina sur le sien, Gaétan retrouva un instant son ancien amour. Gelsomina, trompée, s'y laissa reprendre. Ce fut elle alors qui demanda pardon à Gaétan, qui s'accusa d'être inquiète, exigeante, jalouse. Gaétan tressaillit à ce dernier mot prononcé pour la première fois entre eux, car il sentait qu'il ne pourrait longtemps tromper Gelsomina, habituée qu'elle était à le voir chaque nuit. Alors il lui chercha une querelle. « Vous plaignez de moi, lui dit-il, Gelsomina, quand ce serait à moi de me plaindre de vous. »« à vous plaindre de moi, » s'écria la jeune fille. « Mais que vous ai-je donc fait ? Vous ne m'aimez pas. Je ne vous aime pas. Vous dites que je ne vous aime pas, moi. Il dit que je ne l'aime pas, mon Dieu. » Et la jeune fille leva ses yeux, tout humides, de pleurs vers le ciel, comme pour le prendre à témoin que si jamais accusation avait été injuste, c'était celle-là. Du moins, reprit Gaetano, embarrassé de soutenir lui-même une assertion dont au fond du cœur il reconnaissait la fausseté. Du moins, vous ne m'aimez pas comme je voudrais que vous m'aimassiez. Et comment pourrais-je vous aimer plus que je ne le fais ? Demanda la jeune fille. Est-ce aimer véritablement, dit Gaétane, que de refuser quelque chose à l'homme qu'on aime ? Que vous ai-je jamais refusé ? Demanda naïvement Gelsomine. Tout, dit Gaétane. C'est tout refusé que de n'accorder qu'à demi. Gelsomine a rougi, car elle comprit ce que lui demandait son amant. Puis, après un moment de silence réfléchi de la part de la jeune fille, impatient de la part du jeune homme, « Écoutez, Gaétane, lui dit-elle, vous savez ce qui a été convenu entre mon père et vous. Il me donne 1000 ducats en mariage, et il a exigé de vous que vous apportassiez une pareille somme. Vous lui avez dit que 2 ans vous suffiraient pour l'amasser, et vous avez accepté la condition qu'il vous a faite d'attendre 2 ans. Moi, de mon côté, vous le voyez, Gaétane, j'ai fait ce que j'ai pu pour vous rendre l'attente moins longue. Voilà 1 an que nous nous aimons. Et pour moi, du moins, cette année a passé comme un jour. Eh bien, si vous craignez la lenteur de l'année qui nous reste à attendre, si, comme vous le dites, vous croyez, lorsqu'une jeune fille a donné son cœur, qu'il lui reste encore quelque chose à accorder, eh bien, prévenez le prêtre de Sainte-Rosalie. Venez me prendre demain à 10 heures du soir, au lieu de minuit. Munissez-vous d'une échelle pour que je puisse descendre de cette fenêtre, et alors je me rends à l'église de la Sainte, le prêtre, nous unit secrètement. Note. En Sicile, et même dans tout le reste de l'Italie, où il n'y a pas d'acte de l'état civil, les mariages faits ainsi, même sans le consentement des parents, sont parfaitement valides. Et alors, la femme n'aura plus rien à refuser à son mari. Gaetano avait écouté cette proposition en silence et en pâlissant. Enfin, voyant que Gelsomine attendait avec anxiété sa réponse. « Demain, dit-il, demain, je ne puis pas demain, c'est impossible. Impossible, et pourquoi ? J'ai fait marcher avec 2 Anglais pour les conduire aux îles. C'est cela qui me rendait triste. Je suis forcé de te quitter pour 7 ou 8 jours, Gelsomine. Toi me quitter pour 7 ou 8 jours, s'écria Gelsomine en lui saisissant la main comme pour le retenir. Ils m'ont offert 40 ducats pour cette course. Et j'avais une telle hâte de compléter la somme qu'exige ton père que j'ai accepté. Ce que tu me dis là est-il bien vrai ? Demanda la jeune fille. Doutant pour la première fois des paroles de son amant. « Je te le jure, Gelsomine. Et à mon retour, eh bien, nous verrons à faire ce que tu me demandes. »« Ce que je te demande, » s'écria la jeune fille étonnée, « grand Dieu. Mais est-ce moi qui te prie ? Est-ce moi qui te presse ? Tu dis que je le demande, quand je croyais accorder. Mais nous ne nous comprenons plus, Gaétane. »« Si fait, Gelsomine, seulement tu te défies de ma parole, et tu ne veux rien accorder qu'à ton mari. » Eh bien, soit à mon retour, je ferai ce que tu exiges. Ce que j'exige ? Oh mon Dieu ! S'écria Gelsomine. Que s'est-il donc passé entre nos 2 cœurs ? Puis comme 2 heures sonnaient, elle tendit sa main à Gaétane, espérant qu'il la retiendrait encore. Mais Gaétane, coupable envers Gelsomine, se trouvait mal à l'aise en face d'elle. Et, baisant la main de la jeune fille, il sauta à terre en lui disant « À 8 jours, Gelsomine. À 8 jours. » murmura la jeune fille en laissant retomber la jalousie avec un profond soupir, et en regardant Gaetano s'éloigner. 2 fois Gaetano, sans doute, repentant au fond du cœur, s'arrêta pour revenir dire un adieu plus tendre à Gelsomine. 2 fois la jeune fille, dans cette espérance, porta vivement la main à la jalousie, toute prête qu'elle était pour le pardon. Mais cette fois comme la première, le mauvais génie de Gaetano l'emporta, et, continuant de s'éloigner de Gelsomine, il disparut enfin à l'angle de la rue. La jeune fille resta debout derrière la jalousie jusqu'à ce qu'elle vît paraître le jour. Alors seulement elle se jeta tout habillée sur son lit. Vers les 3 heures de l'après-midi, au moment où le vieux Mario venait de sortir, le juif qui était déjà venu offrir des diamants à Gelsomine entra avec un autre écrin. La jeune fille était assise, les mains sur ses genoux, la tête inclinée sur la poitrine, en proie à une si profonde rêverie qu'elle ne le vit point entrer, et qu'elle ne s'aperçut de sa présence que lorsqu'il fut tout près d'elle. Elle le regarda, le reconnut, et tressaillit comme si elle eût touché un serpent. « Que demandez-vous ? » s'écria-t-elle. « Je demande, dit le juif, si votre couronne de jasmin et d'aphné suffit toujours à Gaétane. »« Que voulez-vous dire ? » s'écria la jeune fille. Je dis que c'est un garçon plein d'ambition et d'orgueil. Il pourrait qu'il se lassât de cette simple parure et qu'il se mît un beau matin en quête d'une couronne plus précieuse. Gaetano même, dit la jeune fille en pâlissant. Je suis sûre de lui comme il est sûr de moi. D'ailleurs, il ne voudrait pas me tromper. Il a le cœur trop grand pour cela. Si grand, dit le juif en riant, qu'il y a dans ce cœur de la place pour deux amours. Vous mentez, dit la jeune fille en essayant de donner à sa voix une assurance qu'elle n'avait pas. Vous mentez, laissez-moi. Je mens, dit le juif, et si au contraire je donnais la preuve que je dis la vérité. Gelsomine le regarda avec des yeux où se peignaient toutes les angoisses de la jalousie. Puis, secouant la tête comme pour donner un démenti à la voix de son propre cœur, « Impossible, dit-elle, impossible. Et cependant, dit le juif, il ne vient pas ce soir. Il ne viendra pas demain. Il ne viendra pas après-demain. Il part aujourd'hui pour les îles. Il te l'a dit. N'était-ce point la vérité, mon Dieu ? S'écria la jeune fille avec l'expression de la plus profonde douleur. Gaetano n'a point quitté Palerme, dit le juif. Mais il part ce soir, demanda avec anxiété Gelsomine. Il ne part ni ce soir, ni demain, ni après-demain. Il reste. Il reste. Et pourquoi faire, reste-t-il ? Pourquoi faire, je vais vous le dire. Pour faire l'amour avec une belle marquise. Quelle est cette femme ? Où est cette femme ? Je veux la voir. Je veux lui parler. Qu'as-tu à faire à cette femme ? C'est Gaetano qui te trahit. C'est de Gaétane qu'il faut te venger. Me venger, et comment ? En lui rendant infidélité pour infidélité, trahison pour trahison. Sortez, s'écria Gelsomine, vous êtes un infâme. Vous me chassez, dit le juif, je m'en vais. Mais vous me rappellerez, jamais. Je me nomme Isaac, je demeure Salita Sant'Antonio, numéro 27. J'attendrai vos ordres pour revenir. Et il sortit, laissant Gelsomine à écraser sous la nouvelle qu'elle venait d'apprendre. Toute la journée, toute la nuit se passèrent dans une lutte incessante. Ce que Gelsomine souffrit pendant cette nuit et pendant cette journée ne peut se décrire. 20 fois, elle prit la plume. 20 fois, la rejeta. Enfin, le lendemain, à 3 heures, on frappa à la porte du juif. Il alla ouvrir. Une femme couverte d'un voile noir entra. Puis, aussitôt que la porte se fut refermée derrière elle, cette femme leva son voile. C'était Gelsomine. « Me voilà, dit-elle. Vous avez fait plus que je n'espérais, dit le juif. Je comptais que c'était moi que vous feriez venir, et c'est vous qui êtes venu. » Il était inutile de mettre quelqu'un dans la confidence, dit Gelsomine. « En effet, c'est plus prudent, répondit le juif. Que voulez-vous de moi ? Savoir la vérité. Je vous l'ai dite. La preuve, vous pourrez la voir quand vous voudrez. Comment ? En vous cachant rue Magda, en face du numéro 140. » Il y a là un palais avec des colonnes, qui semble fait exprès pour cela. Eh bien, après. Après, à minuit, vous verrez Gaetano entrer. À 2 heures, vous le verrez sortir. À minuit, rue Magda, en face du 140. Parfaitement. Et la nuit prochaine, ira-t-il ? Il y va toutes les nuits. Tout service mérite récompense, reprit en souriant avec amertume Gelsomine. Vous venez de me rendre un service. « À combien l'estimez-vous ? » Le juif ouvrit son écrin et le présenta à Gelsomine. « Choisissez celui de tous ces diamants qui vous conviendra le mieux, dit-il, et je serai payé. Taisez-vous, dit la jeune fille. » Et elle sortit sans vouloir rien écouter de ce que lui disait le juif. Le soir, à 10 heures, elle alla embrasser, comme d'habitude, le vieux Mario dans son lit. Rentra chez elle, s'enveloppa d'un grand voile noir. Puis, à 11 heures, elle se glissa doucement dans le corridor, regarda à travers le trou de la serrure de la chambre de son père et s'assura que la lampe était éteinte. Pensant que cette obscurité était une preuve que le vieillard était endormi, elle ouvrit alors doucement la porte de la rue, prit la clé pour pouvoir rentrer quand elle voudrait et sortit. 10 minutes après, elle était dans la rue Magda, cachée derrière une colonne du palais Giardinelli, en face du numéro 140. À minuit moins quelques minutes, elle vit s'avancer un homme enveloppé d'un manteau. Au premier coup d'œil, elle le reconnut, c'était Gaetano. Elle s'appuya contre la colonne pour ne pas tomber. Gaetano passa et repassa, comme il avait l'habitude de le faire pour elle. Bientôt, à ce même signal qui avait tant de fois fait battre son propre cœur, Gelsomine vit la porte s'ouvrir et Gaetano disparut. Gelsomine crut qu'elle allait mourir. mais la jalousie lui rendit les forces que la jalousie lui avait ôtées. Elle s'assit sur les marches du palais, et, cachée dans l'ombre projetée par les colonnes, elle attendit. Les heures passèrent. Elle les compta les unes après les autres. Comme 3 heures venaient de sonner, la porte se rouvrit. Gaétane reparut. Une femme vêtue d'un peignoir de mousseline blanche l'accompagnait. Il n'y avait plus de doute. Gelsomine était trahie. D'ailleurs, comme si Dieu eût voulu d'un seul coup lui ôter toute espérance, les deux amants lui donnèrent le temps de s'assurer de son malheur. Ni l'un ni l'autre ne pouvaient se quitter. Leur adieu dura près d'une demi-heure. Enfin Gaetano s'éloigna. La porte se referma derrière lui. Gelsomine, debout sur les degrés du palais, semblait une statue de marbre. Enfin, comme si elle s'arrachait de sa base, elle fit quelques pas en avant, mais ses genoux se dérobèrent sous elle. Elle voulut crier, mais la voix lui manqua. Et jetant un cri étouffé qui ne parvint pas même jusqu'à Gaetano, elle tomba de toute sa hauteur sur le pavé. Quand elle revint à elle, elle se retrouva assise sur les marches du palais de Giardinelli. Un homme lui faisait respirer des selles. Cet homme, c'était le juif. Gelsomine regarda cet homme avec terreur. Il semblait un démon acharné à sa perte. Elle fouilla dans ses poches pour voir si elle avait quelque argent pour lui payer ses soins. Puis, sa recherche ayant été inutile, « Je n'ai rien sur moi, lui dit-elle. Je vous ferai récompenser. J'irai demain chercher ma récompense, moi-même, dit le juif. Ne venez pas, s'écria Gelsomine en se reculant de lui. Vous me faites horreur. » Le juif, jugeant que le moment serait mal choisi pour renouveler ses propositions, se mit à rire et laissa Gelsomine, maîtresse, de se retirer. Gelsomine profita de la liberté que lui donnait le juif et s'éloigna d'un pas rapide. Bientôt, elle se retrouva à la porte de sa maison. Elle était arrivée là sans retourner la tête en arrière, sans regarder ni à droite ni à gauche. Toutes les hallucinations de la fièvre passaient devant ses yeux. Toutes les rumeurs du délire bruissaient à ses oreilles. Elle voulut ouvrir la porte, mais elle ne put jamais retrouver la serrure. Elle crut qu'elle allait devenir folle et se coucha, en criant miséricorde à Dieu, sur le banc de pierre qui était sous sa fenêtre. À 5 heures du matin, en sortant pour ouvrir les volets, son père la retrouva là. Elle n'était pas évanouie, mais elle avait les yeux fixes, les mains crispées, et ses dents claquaient l'une contre l'autre, comme si elle sortait de l'eau glacée. Son père voulut l'interroger, mais elle ne répondit point. Comme il faisait jour à peine, personne encore ne l'avait vue. Il la prit dans ses bras, l'emporta comme un enfant et la remit à la vieille Assunta, qui lui ôta ses habits et la coucha, sans qu'elle fît la moindre résistance, sans qu'elle prononçât un seul mot. À peine couchée, la fièvre la prit. Mario voulait envoyer chercher un médecin, mais Gelsomine dit qu'elle ne voulait voir que son confesseur, Fra Leonardo. Fra Leonardo vint et s'entretint plus d'une heure avec la jeune fille. Lorsqu'il sortit de la chambre de Gelsomine, son vieux père l'attendait pour l'interroger. Mais le confesseur ne pouvait rien dire. Il secoua la tête tristement, et à toutes les questions que lui fit le vieillard, il se contenta de répondre que Gelsomine était une sainte. Derrière le confesseur arriva le juif. Il dit à Mario qu'il avait appris que sa fille était malade, et que comme il avait une foule de secrets pharmaceutiques, il se faisait fort de la guérir si on voulait l'introduire auprès d'elle. Le vieillard fit demander à Gelsomine si elle voulait recevoir un juif, qui se disait médecin. Gelsomine se fit faire son portrait par la vieille Assunta, et ayant reconnu son persécuteur, « Nourrice, répondit-elle, va dire à cet homme qu'il repasse demain à la même heure. » Le lendemain, le juif n'eut garde de manquer au rendez-vous. Mais lorsqu'il demanda au vieux Mario où était sa fille, celui-ci lui répondit en pleurant que, le matin même, Gelsomine était entrée comme novice au couvent de Notre-Dame du Calvaire. Gabriel avait compté sur le désespoir pour perdre Gelsomine. Mais en cette occasion, prières, menaces, argent, tout fut inutile. Il avait affaire à une tourière incorruptible. 5 jours s'écoulèrent sans rien amener de nouveau. Le terme demandé par Gabriel au prince de G arriva. Il se présenta chez lui tout confus. C'était la première fois qu'il échouait aussi complètement. « Eh bien, dit le prince de G, où est cette jeune fille ?»« Ma foi, monseigneur, dit Gabriel, voici 12 jours que Dieu et le diable la jouent au dé. Mais cette fois, Dieu était le plus fin, et il a gagné. Ainsi, tu y renonces. Elle s'est réfugiée dans le couvent de Notre-Dame du Calvaire. Et à moins que nous l'enlevions de force, je ne vois pas trop moyen de l'en faire sortir. Merci du conseil, mais je ne veux pas me brouiller avec l'archevêque. D'ailleurs, c'était ton affaire et non la mienne. Tu t'étais chargé de m'amener cette jeune fille ici. Tu as échoué. C'est pour toi que la honte en retombera. J'espère que Monseigneur me gardera le secret, dit Gabriello, profondément humilié. Le secret, s'écria le prince. Ah bien oui, le secret. Je dirais partout, au contraire, que je voulais une fille de rien, une grisette, une petite ouvrière, que je t'ai laissé carte blanche pour l'argent, et que malgré tout cela, tu as échoué. Mais Monseigneur veut donc me perdre, s'écria Gabriello, désespéré. Non, mais je veux qu'on sache le fond qu'on peut faire sur ta parole. C'est un petit dédommagement que je me réserve. Votre Excellence est décidée à me faire cet affront ? Parfaitement décidée. Mais si je n'avais pas perdu tout espoir ? Alors c'est autre chose. Si je demandais 3 mois à votre Excellence pour tenter un nouveau moyen ? Je t'en donne 6. Et pendant ces 6 mois, votre Excellence gardera le secret sur ce premier échec ? Je serai muet. Tu vois que je te fais beau jeu. Oui, Excellence. Oui, maintenant, ce n'est plus une affaire d'argent, c'est une question d'honneur. J'y réussirai ou j'y perdrai mon nom. Ainsi donc, dans 6 mois ? Peut-être avant, mais pas plus tard. Adieu, Seigneur Gabriello. Au revoir, Excellence. Gabriello rentra chez lui. Il lui était venu, tout en causant avec le prince de G, une idée lumineuse qu'il avait besoin de mûrir. Toute la journée et toute la nuit, il la retourna dans sa tête. Le lendemain, il commença de la mettre à exécution. Dès le matin, il alla trouver Fra Leonardo dans sa cellule, se jeta à ses pieds en lui disant qu'il était un grand pécheur, mais que la grâce de Dieu l'avait touché, et qu'il s'adressait à lui pour qu'il le soutînt dans la bonne voie, hors de laquelle il avait si longtemps marché. Il lui confessa ensuite l'infâme métier qu'il exerçait, se frappant la poitrine avec tant de componction et de remords, à chaque nouvel aveu qui sortait de sa bouche, que Fra Leonardo, voyant dans cet homme un miracle de conversion, ne put s'empêcher de lui demander comment le repentir lui était venu. Alors Gabriello lui raconta qu'il avait été chargé par un grand seigneur de perdre Gelsomine, mais qu'à peine l'avait-il vu qu'il était devenu amoureux d'elle, et n'avait pas même osé lui parler. Longtemps il avait combattu cet amour, sachant bien qu'il était indigne d'une si chaste jeune fille. Mais enfin il avait pensé qu'il n'y a pas de crime si grand que le repentir n'efface, pas de conduite si souillée que l'absolution ne lave. Il avait donc pris la résolution d'aller se jeter aux genoux du père de Gelsomina et de lui tout dire, lorsqu'il avait appris que celle qu'il aimait venait d'entrer dans un couvent. Alors, dans son désespoir, il était venu à Fra Leonardo pour lui dire que son parti était pris, et que si Gelsomina se faisait religieuse, lui, de son côté, était décidé à entrer en religion, en abandonnant la moitié de ce bien si mal acquis aux pauvres, et en faisant de l'autre moitié un fonds pour marier quelques filles pauvres et sages qui auraient refusé de s'enrichir aux dépens de son honneur. Une pareille détermination toucha le bon Capucin jusqu'aux larmes. Il dit à son pénitent que tout n'était pas encore perdu et que Gelsomina ne persisterait peut-être point dans une résolution prise à un moment d'exaltation et qui mettait son vieux père au désespoir. En outre, il promit d'user de toute son influence sur elle pour la déterminer à ne point prendre pour une vocation sérieuse ce vertige religieux qui l'avait saisi lorsqu'elle avait regardé le monde du haut de sa douleur. Gabriello se jeta aux pieds du moine et lui baisa les genoux en lui demandant la permission de revenir tous les jours. Fra Leonardo raconta tout au père de Gelsomina. Le pauvre vieillard, compatissant à une douleur qu'il partageait, demanda à voir ce pauvre jeune homme afin de pleurer avec lui. Le moine promit de le lui amener le lendemain. Le lendemain, à l'heure convenue, le père de Gelsomina vit arriver Fra Leonardo et son pénitent. Les deux, affligés, se jetèrent dans les bras l'un de l'autre. Gelsomina était le lien qui les unissait. Aussi ne parlèrent-ils que d'elle. C'étaient les premiers moments de consolation que le vieux Mario eut goûté depuis que sa fille était au couvent. Aussi, lorsque Gabriello le quitta, fit-il promettre au jeune homme qu'il reviendrait le voir le lendemain. Non seulement Gabriello n'avait garde de manquer à un pareil rendez-vous, mais encore il y vint longtemps avant l'heure indiquée. Le vieillard lui sut gré d'être plus qu'exact, et ils passèrent une partie de la journée ensemble. Quant à Gaétane, on n'en entendait pas même parler. Il avait la tête plus que jamais affolée de sa prétendue marquise. Fra Leonardo voyait Gelsomine tous les jours. Il lui raconta d'abord, sans qu'elle y fît grande attention, la conversion miraculeuse qu'elle avait faite. Puis il lui peignit le désespoir de Gabriel en la perdant. Gelsomine savait ce que c'était que les douleurs d'amour. Elle plaignait au fond du cœur le jeune homme qui les éprouvait. Quelques jours après, Gelsomine a consenti à voir son père, mais à condition qu'il n'essaierait pas de la dissuader de sa résolution de se faire religieuse. Le vieux Mario promit tout ce que l'on voulut et ne lui parla tout le temps que de Gabriel, qui avait pour lui tous les soins qu'un fils aurait pour son père. Gelsomine remercia Dieu de ce qu'il rendait au vieillard l'enfant qu'il avait perdu. Quelque temps après, comme Fra Leonardo vit Gelsomina plus tranquille, il commença à l'entretenir des véritables devoirs d'une chrétienne. Le premier de ses devoirs, selon lui, était d'honorer ses parents et de leur obéir en tout point, un père et une mère étant en ce monde la divinité visible pour leur enfant. Vers la même époque, le vieux Mario se hasarda à reparler à sa fille de ses anciens rêves paternels. Comment il avait songé parfois au bonheur qu'il éprouverait à mourir entre les bras de ses petits-enfants. Puis il demanda à Gelsomine, les larmes aux yeux, s'il lui fallait renoncer pour toujours à cet espoir. Gelsomine pleura, mais ne répondit rien. Une fois, Gelsomine hasarda de demander à Fra Leonardo ce qu'était devenu Gaetano. Fra Leonardo répondit qu'il était toujours le même, mais qu'il devenait de plus en plus orgueilleux, et qu'on le voyait à toutes les fêtes avec des rubans à son chapeau, des bagues à ses doigts, et des ceintures magnifiques autour du corps. Gelsomine assoupira plus profond de son cœur. Il était évident qu'elle était complètement oubliée. Comme Fra Leonardo sortait de la cellule de la novice, le vieux Mario y entrait. Chaque jour, il était plus reconnaissant à Gabriel de ses soins pour lui. Soins d'autant plus désintéressés qu'une seule récompense était digne d'eux, et que cette récompense, la résolution de Gelsomine la rendait impossible. 4 mois s'écoulèrent. Ces 4 mois avaient amené une grande amélioration dans l'état des choses. Gelsomine sentait qu'elle ne serait jamais heureuse elle-même, mais elle comprenait qu'elle pouvait beaucoup pour le bonheur des autres. Or, pour un cœur comme celui de Gelsomine, c'était presque être heureuse elle-même que de rendre les autres heureux. Aussi la première fois qu'elle vit son père pleurer en songeant que l'époque où elle devait prendre le voile arrivait, ce fut elle qui le consola en lui disant de prendre courage, qu'elle commençait à sentir que Dieu lui donnerait la force de surmonter son amour et que, comme la seule crainte de revoir Gaetano l'avait déterminée à fuir le monde, peut-être rentrerait-elle dans le monde du moment où elle pourrait le revoir sans crainte. À cette seule espérance, le vieillard éprouva une si grande joie que Gelsomine eut presque des remords d'avoir causé à son père une si grande douleur. Quelques jours après, Fra Leonardo se hasarda à parler à la novice de Gabriello et de l'amour profond qu'il conservait pour elle. Gelsomine ne put s'empêcher de comparer cet amour, sans espérance, à celui de Gaetano, qui pouvait tout espérer, et elle plaignit le pauvre garçon plus tendrement qu'elle ne l'avait encore fait. Cela rendit quelque courage au pauvre père. À la première entrevue qu'il eut avec sa fille, il lui ouvrit son cœur tout entier. Il ne manquait à Gabriel que d'être époux de Gelsomine pour que Mario vît en lui un véritable enfant. Le lien social seul manquait, car Gabriel avait depuis 5 mois pour le vieillard les soins, l'amour et le respect que le fils le plus tendre pourrait avoir pour son père. Gelsomine tendit la main au vieillard et lui demanda 8 jours pour interroger son cœur. Ces 8 jours, Gelsomine les passa dans la prière et dans la solitude. Elle aimait toujours Gaetano, mais d'un amour qui n'avait plus rien de terrestre, et à la manière dont les enfants du ciel aimaient les fils de la terre. Elle sentait en elle, sinon le désir, du moins la force d'appartenir à un autre et d'être une digne femme et une digne mère, comme elle avait été une sainte jeune fille. Lorsque son père revint au jour indiqué, elle lui dit donc que si son bonheur dépendait de son consentement, elle donnait ce consentement, sinon avec joie, du moins avec résignation. Le vieux Mario tomba presque aux genoux de sa fille, mais elle le prit dans ses bras et sourit à le voir si heureux. Alors il lui demanda la permission de lui amener Gabriel le lendemain. Mais elle lui répondit qu'elle n'avait pas besoin de le voir, qu'elle recevrait un mari des mains de son père, et que ce mari, quel qu'il fût, avait droit à son estime et à son dévouement, que ces deux sentiments étaient les seuls que l'on pouvait exiger d'elle, et que ce serait autant d'en faire naître un autre. Le mariage fut fixé à 15 jours. Ces 15 jours, Gelsomine les passa en prière et en exercice religieux. Puis, le matin du 15e, elle quitta le couvent pour aller à l'église, où l'attendait son fiancé. Ce fut au pied de l'autel seulement qu'elle rencontra Gabriel. Et comme elle ne l'avait vu que déguisé en juif, avec une barbe et une perruque, elle ne le reconnut pas. Au retour, chacun félicita Gabriel sur son honneur. Chacun lui dit qu'il avait épousé une véritable sainte. Mais lui se déroba à toutes ces félicitations. Il avait une visite à faire. On annonça au prince de G que Gabriel l'attendait dans son antichambre. « Faites entrer, » dit le prince. Gabriello entra. « Eh bien, » demanda le prince, « où en sommes-nous ? C'est demain que le terme expire. »« Et c'est ce soir que je vous livre Gelsomine, » dit Gabriel. « Et comment as-tu fait cela, démon ?» s'écria le prince. « Monsieur, c'est tout simple. Voyant qu'elle était incorruptible, je l'ai épousée. Et ce soir, vous prendrez ma place. Voilà tout. Un honnête homme n'a que sa parole. » J'avais engagé la mienne à votre excellence et je la tiens. Le soir, il fut fait ainsi qu'il avait été dit. Gelsomine ignora toujours cet infâme traité, ce qui ne l'empêcha pas de mourir au bout de 3 ans de mariage, en laissant à Gabriello une fille qui a maintenant 12 ans et qu'il est prêt à vendre comme il a vendu sa mère. On voit que l'honnête homme n'a pas volé son surnom d'Il Signor Mercurio, dont il est si fier qu'il a complètement abandonné son nom de baptême et son nom de famille. Quant à Gaetano, lorsqu'il sut qu'il avait été trompé, et qu'en prenant une courtisane pour une marquise, il avait perdu ce trésor d'amour qu'on appelait Gelsomine, il entra dans une telle colère qu'il donna à la catanaise un coup de couteau dont elle faillit mourir. Il en résulta pour lui une condamnation de 20 ans aux galères. Nous le retrouvâmes un mois après, à Vulcano, où, comme on dit en style de bagne, il faisait son temps.